RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour. Alors que les élections législatives et présidentielles ont lieu ce week-end en Turquie, en Grèce, on scrute la campagne électorale avec anxiété. Les relations entre la Grèce et la Turquie se sont tendues depuis le coup d'État manqué contre le président turc Recep Tayyip Erdogan il y a 2 ans. Ankara reproche à Athènes son refus d'extrader 8 militaires turcs venus chercher refuge en Grèce. Et ils ne sont pas les seuls. Le nombre de demandeurs d'asile turcs en Grèce est passé de quelques dizaines par an à plus de 1800 personnes l'an dernier. Adhérent au mouvement de Fethullah Gulen, accusé d'être l'auteur du coup d'État ou simple critique du régime, certains attendent en Grèce de pouvoir continuer leur route vers le nord de l'Europe. D'autres ont décidé de s'installer, tous en tout cas craignent pour leur famille restée en Turquie. En Grèce, ces Turcs qui fuient le pays d'Erdogan. Reportage signé Charlotte Stievenard.
Dans ce petit appartement d'Athènes, les murs sont blancs et le mobilier sommaire. Cela sent le provisoire. Eileen, une mère de famille de 31 ans, préfère ne pas donner son vrai nom car elle a peur des répercussions sur sa famille restée en Turquie.
Je suis ici depuis environ 2 semaines. Nous sommes venus à cause des problèmes que nous avons rencontrés en Turquie. D'abord, mon mari a quitté le pays, il est resté 1 mois à Athènes. Désormais, il est en Allemagne.
Eileen prépare à manger pour les visiteurs. Un sourire dans la voix, elle nous parle de sa vie avant le coup d'État manqué en Turquie, la nuit du 15 juillet, il y a 2 ans.
J'ai un diplôme du département de littérature turque de l'université. J'étais en master. J'ai dû tout arrêter. Mon mari est universitaire. Nous avions une vie normale. Nos enfants ont grandi dans les jardins de l'université parmi les gens éduqués. Ils faisaient beaucoup de choses avec leur père qui les amenait au travail. Nous étions très pacifiques, une véritable famille. Mais depuis 2 ans, nous avons complètement oublié ce que signifie ce mot. Mon mari a été arrêté, puis il est allé en prison et ensuite il a essayé de fuir. Avec tout ça, depuis le coup d'État manqué, nous n'avons pas pu nous réunir comme avant. Je porte tout le poids des enfants sur les épaules. J'ai dû devenir à la fois leur mère et leur père. Cela a eu un impact négatif sur moi. Faire un master et travailler à l'université était tellement important pour moi. Mais j'ai dû arrêter.
Eileen estime qu'avec son mari, ils ont été victimes d'une injustice.
Même après le coup d'État manqué, nous ne pensions pas que quelque chose de mal pouvait nous arriver. Nous étions soulagés qu'il ait échoué. Juste après le coup d'État, mon mari a d'abord été licencié de son poste et 1 mois plus tard, il a été arrêté. Quand il a été licencié, il a demandé des explications à l'université. Ils lui ont répondu qu'il devait savoir lui-même de quoi il était coupable. Ils avaient visiblement une liste avec des noms et celui de mon mari en faisait partie. Même dans l'acte d'accusation pour son arrestation, ils n'avaient rien à lui reprocher. C'était n'importe quoi. D'abord, ils ont dit que mon mari avait utilisé l'application pour téléphone portable Bylock, soi-disant utilisée par les gulenistes. Et ensuite, ils ont dit que non. Ils n'avaient pas de preuves. Après le coup d'État, dans mon entourage, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la même situation. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui a été licencié ou arrêté. À l'heure actuelle, tout le monde est victime de ce système à divers degrés en Turquie.
L'État leur reproche d'adhérer au mouvement de Fethullah Gulen, un imam exilé aux États-Unis. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, l'accuse d'être responsable du putsch avorté. Il licencie de nombreux fonctionnaires, membres supposés de ce réseau qu'il qualifie d'organisation terroriste. Le mari d'Eileen passe 10 mois en prison. À sa libération, ils essayent de mener une vie normale sans succès.
Ça a été une dure épreuve pour nous. Nous avons caché notre situation quand on a déménagé, car les gens ne voulaient pas nous louer d'appartement. Quand ils me posaient des questions, je leur disais que mon mari était à un congrès à l'étranger. Nous avons dû cacher notre situation pendant longtemps, même à ma famille, à cause des réactions de notre entourage. Les gens autour de nous ont commencé à dire que s'ils n'étaient pas coupables, ils n'auraient pas été envoyés en prison. Quand mon mari a été libéré, ça a été encore plus difficile. Un propriétaire nous a arnaqués. Il nous a loué un appartement en disant qu'il était vide, alors que ce n'était pas le cas. À cette époque, mon mari a vraiment perdu courage. Il n'arrivait même pas à trouver du travail. C'était un académicien, il n'avait jamais fait de travaux physiques. Mais il a voulu travailler dans un magasin de meubles. Même transporter des meubles, ce n'était pas possible. Ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas travailler.
Puis son mari quitte le pays seul. D'abord, Aileen reste jusqu'à ce que la situation empire. En consultant un site gouvernemental, ils se rendent compte qu'elle est elle aussi sur une liste. Elle a même une date de comparution devant la justice.
Quand j'ai décidé de partir, je savais qu'il y avait une date pour ma comparution. Je savais aussi que 10 personnes étaient mortes dans l'Evros avant nous. Normalement, nous n'aurions jamais pensé traverser illégalement. Je voulais juste rejoindre mon mari. Mais comme il y avait cette comparution, j'ai dû choisir soit aller en prison sous les yeux de mes enfants, ou alors prendre le risque de partir.
Ce n'est que le début du récit. Les larmes aux yeux, elle doit s'arrêter. La traversée fut dure. Ils ont payé 3000 euros à trois, dont deux jeunes enfants, pour passer en Grèce par le fleuve Evros.
Après avoir traversé la rivière, les passeurs nous ont abandonnés. C'était des marécages, il y avait de l'eau partout. Quelqu'un m'a tenu la main et deux autres personnes ont porté mes enfants. Nous étions trempés, comme nous n'avions pas de sac, nous ne pouvions pas changer d'habit. Avec mes enfants, nous sommes restés dans ces conditions jusqu'à 6h30 du matin. Je pensais que mon fils était gelé car ses mains étaient très froides. La rivière était en crue et l'eau nous arrivait à la ceinture. Nous avions peur de nous noyer car avec la fatigue, je pense que si j'étais tombée dans l'eau, j'aurais été incapable de me relever. Entre-temps, je devais pousser mes enfants. Pour moi, l'eau m'arrivait à la ceinture, mais pour eux, l'eau montait jusqu'à la tête. Un homme nous a aidés en prenant mon fils sur ses épaules, mais ma fille était avec moi et elle a beaucoup souffert. Mon fils faisait semblant de dormir. Quand on le touchait, il ne bougeait pas pour pouvoir rester sur les épaules de l'homme qui le portait, mais il était réveillé.
Finalement, le calvaire prend fin. La police grecque les accueille bien et malgré leur phobie des uniformes, les enfants finissent par s'endormir dans la voiture. Après avoir été enregistrés, ils passent la nuit à Thessalonique avant de se rendre à Athènes. Aujourd'hui, dans la capitale grecque, Aileen se sent sortie d'affaire.
Maintenant, nous sommes en sécurité ici. Nous savons que la police ne va pas débarquer le matin quand nous nous réveillons. En Turquie, comme je savais que j'avais cette comparution, dès que j'entendais la sonnette ou taper à la porte, j'avais peur qu'ils soient là pour moi. S'ils étaient venus me chercher, mes enfants n'auraient pas supporté de voir ça, car nous sommes très proches. Même aujourd'hui, nous dormons dans le même lit. Ils ont essayé de couvrir l'absence de leur père avec moi.
Son mari a obtenu l'asile en Allemagne. Ils attendent désormais la réunification familiale pour pouvoir le rejoindre.
Nice to meet you. Thank you.
Si beaucoup de réfugiés turcs choisissent de continuer leur route vers le nord de l'Europe, comme Aileen et sa famille, certains ont décidé de s'installer en Grèce. Ils sont nombreux à Thessalonique, une ville du nord-est de la Grèce, plus proche de la Turquie. Dans cette famille installée ici depuis plusieurs mois, ce soir c'est le premier jour du Ramadan. Meryem, qui parle elle aussi sous un faux nom, a préparé quelques spécialités pour la rupture du jeûne. Son mari, journaliste, est arrivé il y a un an et demi en Grèce. Ensuite, elle l'a rejoint avec leur fille. Celui qu'on appellera Ahmed raconte son histoire. Il estime lui aussi avoir été victime d'une injustice.
Gözaltına alınmayı alınacağım L'information selon laquelle j'allais être arrêté a été diffusée sur le réseau social Twitter. C'était juste après la tentative de coup d'État. Avant cela, mes tweets critiquaient le parti au pouvoir, l'AKP. Mon compte était très suivi et à mon nom. Environ 7 mois avant le coup d'État, le département de communication des services secrets turcs a porté plainte contre moi. C'était la première fois que j'avais des problèmes judiciaires sous Erdogan. Le contenu de l'accusation parlait d'un article du journal Taraf qui disait que les services secrets avaient créé un groupe pour se renseigner sur l'opposition au gouvernement. En réalité, cet article, je l'avais juste diffusé sur le réseau Twitter. Après le coup d'État manqué, un compte Twitter a publié une liste de 163 journalistes qui allaient être détenus. Ensuite, tous les gens sur cette liste ont effectivement été détenus et arrêtés. Quand j'ai vu mon nom dans la liste, j'ai pris la fuite. J'ai passé 5 mois dans l'illégalité. L'État me recherchait. Je me cachais à une autre adresse, ce qui m'évitait d'être arrêté.
Pendant toute cette période, sa femme n'a aucune nouvelle de lui. Ahmet prend la décision de partir en Grèce. Après avoir traversé la frontière, il la contacte par le biais d'un faux compte Twitter. Meryem raconte ce qu'elle a vécu pendant son absence.
Je suis allée dans mon village natal. Ils ont cassé la porte et tout renversé dans ma maison. Et quand je suis allée au village, j'ai appris qu'ils avaient fouillé l'appartement de ma tante, les appartements de mes cousins, de mes oncles. Quel que soit l'endroit où j'allais, ils me suivaient. Ça me faisait très peur.
Elle décide alors de le rejoindre avec sa fille, n'ayant pas assez d'argent pour emmener leur grand-fils de 18 ans avec eux, hébergé par ses grands-parents.
Au départ, je ne pensais pas venir ici, mais le cercle se refermait de plus en plus sur nous. Il nous posait beaucoup de problèmes. La police était de plus en plus dure. Ils ont commencé à détenir les épouses des personnes recherchées. Donc j'ai choisi la dernière option, prendre le risque de mourir et venir en Grèce.
Si la traversée de la rivière Evros est facile pour son mari, pour elle et sa fille à peine adolescente, c'est autre chose. Les passeurs se trompent de chemin. Après 9 heures de marche, ils les abandonnent avec un bateau gonflable et 2 pagaies. Ils en perdent une. 2 passagers descendent alors dans l'eau pour pousser l'embarcation. Meryem manquera de mourir.
À un moment, l'homme qui poussait le bateau est monté sur une espèce de terre-plein. Nous avons pensé que nous étions arrivés, car à droite, là où il se trouvait, l'eau arrivait à ses genoux. Ensuite, ma fille est descendue du même côté. Et moi, je suis descendue du côté gauche. Mais je suis tombée dans l'eau. J'ai complètement coulé. La dernière chose dont je me souvienne, c'est ma fille qui essayait de tenir ma main. Elle criait « Maman, maman !» Quand je me suis dit que c'était la fin, un homme m'a tiré de l'eau. Car je lui avais dit avant que je ne savais pas nager. J'avais toutes mes affaires dans mon sac à dos, donc tout était trempé. L'aube venait de se lever quand nous avons enfin réussi à sortir de l'eau. Nous avons eu très froid. J'ai passé 2 jours avec ces habits mouillés en détention.
Comment la police grecque s'est-elle comportée avec vous ?
Très bien, ils étaient très gentils.
Elle se met à pleurer.
Je n'oublierai jamais leur attitude, car à ce moment-là, nous en avions vraiment besoin. Les nôtres ne se sont pas comportés comme ça avec nous. C'est la police de ce pays dont nous avions traversé les frontières illégalement qui nous a bien traités. Je ne l'oublierai jamais.
Aujourd'hui, la famille essaie de refaire sa vie en Grèce en attendant de pouvoir faire venir leur fils. Ahmet a trouvé du travail comme animateur de réseaux sociaux pour un site internet turc, mais leurs revenus sont faibles. Ce n'est pas facile tous les jours et Ahmet reste inquiet. Le gouvernement d'Erdogan exerce une certaine influence dans toute la région, selon lui.
Il y a eu quelques cas de kidnapping à l'étranger. Les gens disparaissent et sont ramenés en Turquie. Le dernier exemple a eu lieu au Kosovo. Il y a aussi la région grecque de Thrace où se trouve la minorité turcophone. Dans des villes comme Xanti ou Komotini, il y a aussi une propagande importante d'Erdogan. Cela a rendu la vie des membres locaux du gouvernement Gülen difficile et cela rend nos vies à nous aussi difficiles.
Sığındığımız için bizim de hayatımızı çok zorlaştırıyordu orada.
Malgré cela, ils aiment beaucoup leur vie quotidienne en Grèce. La culture est proche, selon eux. C'est ce qu'explique aussi une de leurs amies journalistes venue partager le repas de rupture du jeûne avec ses deux enfants. Elle parle avec son vrai nom car sa famille est en sécurité. Son mari est déjà en Allemagne. Elle observe avec attention le déroulement de la campagne électorale en Turquie et surtout les pressions exercées sur la Grèce. À plusieurs reprises, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan a déposé des demandes d'extradition pour 8 militaires turcs qui avaient fui en Grèce la nuit du coup d'État manqué à bord d'un hélicoptère. Pour Touba Güven, la tâche du premier ministre grec n'est pas facile.
It's very difficult to Greece because, you know, to balance the relations between Turkey is very, very difficult.
C'est très difficile pour la Grèce de garder un équilibre dans ses relations avec la Turquie. Mais je pense qu'Alexis Tsipras s'en sort plutôt bien. Ce type de régime veut toujours créer des disputes, trouver des raisons pour des conflits, faire pression sur les îles, sur Chypre, sur la minorité turque. Vous vous souvenez de l'histoire des deux soldats grecs qui sont actuellement en prison en Turquie? Eh bien, la Turquie essaye de les marchander contre les 8 soldats turcs qui sont arrivés après le coup d'État. Mais c'est un test de démocratie pour la Grèce. On va voir comment elle va agir, comment elle va réagir à ce qui se passe en Turquie. Si vous gardez des relations avec ce type de dictateur, cela va vous poser un problème dans le futur, car il détruit son pays. Et vous êtes son voisin. Si la Turquie coule, si le bateau coule, si une guerre civile commence, comment allez-vous réagir aux vagues migratoires? Comme je le disais, c'est un vrai test de démocratie.
Pour ces adeptes de la philosophie religieuse de Fethullah Gülen, c'est l'heure de la prière. Touba Güven rentre chez elle avec ses enfants car il est tard. À Athènes, le Conseil grec pour les réfugiés travaille depuis des années avec des demandeurs d'asile turcs. Maria Papamina, une de leurs avocates, rappelle qu'avant les gulenistes, beaucoup d'autres Turcs sont arrivés en Grèce, notamment pendant le conflit au Kurdistan turc.
La plupart estiment avoir subi des persécutions dans leur pays à cause de leurs croyances politiques, à cause de leurs actions publiques contre le régime, pour les droits des travailleurs, pour les droits des étudiants, des élèves, des Kurdes. Et ces persécutions ont déjà commencé dans les années 90. Il y a cette impression que la situation en Turquie a effectivement changé de façon dramatique après le coup d'État manqué. C'est le cas, mais si on se base sur les rapports d'organisations internationales, la situation en ce qui concerne la mise en œuvre de la justice, les droits des accusés, les accusations à caractère politique, tout cela est problématique depuis de nombreuses années. Les années 90 ont été très difficiles, très dures pour les droits de l'homme en Turquie.
Aujourd'hui, le Conseil grec pour les réfugiés assiste des exilés turcs au profil très différent, parmi eux les 8 militaires qui avaient fui en Grèce la nuit du coup d'État manqué. Toutes les demandes d'extradition de la Turquie les concernant ont été refusées, ce qui a largement envenimé les relations entre les deux pays. Un des militaires a même obtenu l'asile suite à une décision du Conseil d'État et non pas du service d'asile comme d'habitude. Maria Papamina explique que c'est le ministre de la Justice qui a fait monter l'affaire devant les tribunaux pour ne pas avoir à porter le poids politique de cette décision.
Ce que beaucoup ont compris, c'est qu'ils voulaient une décision d'un tribunal et plus précisément de la cour la plus haute pour que cette décision soit réglée, car la pression de l'autre côté était très importante. Donc c'est plus facile de dire, c'est le tribunal qui a pris cette décision. Je ne peux pas aller à l'encontre d'une décision de justice, car elle est indépendante. C'est comme ça qu'ils ont réglé le problème.
En Grèce, tout le monde suit cette affaire de près. Les relations gréco-turques se sont largement envenimées, mais Ahmet, le journaliste, estime qu'il ne l'a pas ressenti dans son pays d'accueil. Au contraire.
Je viens d'une région turque qui se trouve en mer Égée. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée grecque a envahi une partie des territoires turcs en mer Égée et il y a eu des combats avec des armes. Dans mon pays natal, le mot « grec » était une insulte. Mais quand nous sommes venus ici, nous avons vu que ces gens étaient vraiment contents de nous accueillir.
En Grèce, ces Turcs qui fuient la Turquie d'Erdogan. Un grand reportage de Charlotte Stievenard. Réalisation Sophie Janin. Ben yandım sen yandım, Allah aşkına.